Une fois n'est pas coutume, je vous invite de nouveau à vous lever et nous allons rechanter la première strophe du chant tout à l'heure et que nous allons le chanter très fort à la gloire de notre Seigneur, à toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Oui, gloire à toi, Seigneur. Le ressuscité, tu es à la droite du Père, tu nous représentes en ce moment. Tu as gardé les stigmates de ta souffrance en guise de preuve que tu as souffert et que tu es mort pour nous. Mais tu es ressuscité pour nous aussi. Merci pour cet amour. Amen. On va reprendre l'évangile de Jean, verset 20, les 9 premiers versets de tout à l'heure. La résurrection de Jésus-Christ. Nous venons de vivre un moment tragique avec ce qui s'est passé à Bruxelles, bien sûr. Et les émotions sont encore palpables. Et lorsque un être humain est sous un choc pareil, nous n'arrivons même plus à bien réfléchir sur le moment. Et quand le traumatisme est à son paroxysme, nos facultés ont du mal à bien fonctionner parfois. On a du mal à se consoler. Et c'est un peu aussi le cas ici dans ce récit de Jean sur la résurrection de Jésus. Les disciples étaient encore sous le choc, sous un grand traumatisme, après le spectacle macabre qu'ils ont vu. Jésus qui a été traîné, maltraité, de façon inhumaine, frappé à mort, tabassé, son corps était déchiqueté. Dans le livre d'Ésaïe, il est annoncé qu'on ne le reconnaissait même plus, le visage couvert de sang, déformé par les coups et la couronne d'épines sur sa tête. Donc il faut tenir compte de ce contexte précédent avant de bien comprendre ce texte que nous avons devant nous actuellement. Ils étaient encore dans un état grave, les disciples, et que voilà, à nouveau, Marie de Magdala voit le tombeau ouvert. Et constatant que le corps n'était plus là, si on se mettait à la place de Marthe, c'est sûr que nous aurions réagi comme elle, en se disant, ce ne les a pas suffi de le tuer comme un animal, mais ils sont allés jusqu'à voler le corps pour humilier encore un peu plus le mouvement populaire que ce Nazaréen a créé. Et pour Marie de Magdala, sa seule consolation. C'était au moins de pouvoir embaumer le corps de son maître. Au moins qu'elle puisse faire ça. Et on peut dire qu'elle est doublement atteinte, car elle n'a pas pu terminer le processus du deuil. Normalement, on devrait embaumer le corps de Jésus quand on l'a enterré, mais elle ne pouvait pas le faire parce que le sabbat était venu à partir du vendredi soir. Donc c'était interdit. Et c'est pour cette raison qu'on l'a enterré à la hâte. Alors Marie de Magdala et ses amis étaient aveuglés par sa tristesse et qu'elle n'arrivait pas à voir maintenant toutes les petites indices que Jésus a donné, a laissé pour attirer leur attention qu'il est réellement ressuscité. C'était un peu comme les policiers scientifiques qui pourront voir les petits détails. Jésus avait bien enroulé le linge et l'a mis sur la tête. Normalement, ça devrait attirer leur attention. Si quelqu'un a volé le corps, qui aurait pu perdre le temps de bien enrouler le linge? Mais elle n'a plus vu ça, tellement elle était aveugle de tristesse. Replongeons dans notre texte et relevons tous ces indices donnés par Jésus lui-même. D'abord, la pierre avait été ôtée. Il était presque impossible de le faire juste par une seule personne. Les bandes de lin, deux fois que Jean mentionne ce détail dans 9 versets, et surtout le verset 7, le linge qui recouvrait la tête de Jésus était bien enroulé, c'est-à-dire bien plié, et qui était mis à part. Et Jean précise bien, si vous avez suivi la lecture de tout à l'heure, que l'autre disciple, en parlant de lui-même, c'est-à-dire Jean, quand il avait vu les linges, il a cru. Oui, dans les moments difficiles de la vie, Dieu utilise aussi des petits signaux, par-ci, par-là, pour nous rappeler que nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas si seuls que ça. Malgré la situation catastrophique où nous sommes, Dieu est toujours là. Mais le problème, nous sommes aveuglés par nos soucis. Nous sommes aveuglés par nos épreuves que nous ne pouvons plus voir tous ces signaux qu'il nous donne. En voyant cette scène racontée par Jean, la pierre de la tombe qui était ouverte, les linges tombés par terre, nous semblent peut-être anodins. Mais dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans Matthieu, Marc et Luc, ils décrivent que c'était une scène assez violente. Si nous allons replonger dans Matthieu, par exemple, le chapitre 28, les versets 1 à 4, ce qui est dit, ils étaient morts de peur en constatant le tremblement de terre quand le tombeau fut secoué. Cela signifie que le tombeau, qui est le lieu de séjour des morts pour les Juifs, ne pouvait pas contenir celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et l'image qui est donnée est la suivante. C'est la vie qui engloutit la mort. Comme ce qui s'est passé au jour de la création, au premier jour. Et justement, si Jean souligne bien, dès au premier jour, regardez le verset 1, il le souligne bien, dès au premier jour, très tôt le dimanche matin, le premier jour de la semaine, en parallèle avec le premier verset du premier chapitre de Jean, qui dit, au commencement de toutes choses, la parole était avec Dieu. Et c'est cette parole qui était présente au commencement, qui revient ici, à la résurrection, et se révèle au premier jour de la semaine, un dimanche. Rappelez-vous, lors de la création, il n'y avait que le chaos, le tohu-bohu, comme on dit en grec, le noir, les ténèbres. Mais quand la lumière est présente, le noir ne peut pas résister. La vie prend place et prend le dessus, comme lors de la création. Et c'est ce qui s'est passé aussi le jour de la résurrection de Jésus. La vie reprend le dessus sur la terre. La mort ne peut contenir la vie. Et c'est la vie qui a le dernier mot malgré la violence et la dictate imposée par la mort, bien sûr. Ce que Jésus a réalisé le dimanche de Pâques, on peut dire que c'est une chose inédite, car il va jusqu'à annuler la force de la mort physique. C'est-à-dire que la mort du corps ne sera plus une fin. La résurrection de Jésus donne un message clair qu'après la mort, il y a encore une suite. Quand on parle de résurrection au monde où nous vivons actuellement, ça fait rire beaucoup de gens. Des gens même peuvent vous dire que tu crois encore en ce genre de choses, toi. Rappelez-vous l'histoire de Paul lorsqu'il était à Athènes. À un certain moment de son discours, il parlait de la résurrection et cela fait rire les Athéniens. Et voilà ce qu'il disait de lui. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est un peu comme s'il lui disait, allez, cause toujours. Tu nous amuses. Mais la résurrection est capitale, chers frères et sœurs, pour notre foi. C'est le centre même de notre foi chrétienne. Ce n'est pas juste un beau discours pour nous remonter le moral quand on perd un être cher, par exemple. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, supposons, dit-il, si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. » Donc même l'Église n'existerait pas si la résurrection n'a pas eu lieu. Toutes nos louanges serviraient à rien si le Christ n'était pas ressuscité. L'espoir chrétien n'est pas une attente d'une réalisation, d'une promesse quelconque. On ne vit pas dans cette attente-là. Notre espoir est une solide fondation. Il est ancré dans la résurrection de Jésus-Christ. Et au verset 20, Paul parle que la résurrection du Christ est une garantie pour nous tous. La définition du terme « résurrection » nous donne déjà un aperçu de ce que cela pourrait nous apporter. C'est quoi la résurrection finalement? La résurrection, c'est le réveil d'un profond sommeil. Dans les évangiles, rappelez-vous l'histoire de la fille d'un chef juif qui a été déclarée mort. Lorsque Jésus fut venu après la sollicitation des parents, voilà ce qu'il disait. « Sortez d'ici, car la fillette n'est pas morte, elle dort. » Quelle était la réaction des gens? Ils se moquaient de Jésus, qu'il est fou, qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Mais pour Jésus, la mort, ce n'est qu'un sommeil. Ça veut dire que nous allons nous réveiller par la suite. Quand on parle de sommeil, forcément, on pense au réveil par la suite, à l'image d'une personne qui dorme profondément et qui se réveille le lendemain matin. Par conséquent, la mort, pour un chrétien, n'est pas le terminus final, comme on le croit. C'est plutôt une chose passagère et non éternelle. Pour un chrétien, la mort, c'est quoi? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est dit « J'entendis du ciel une voix qui disait, écris, Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux. Un repos. On peut dire alors que la mort pour nous devient une bénédiction, mais plus une malédiction. Amen.